Bien, nous reprenons. J'ai le plaisir d'introduire très brièvement l'intervention de Claude Viterbo, qui est mathématicien. Donc vous voyez, nous avons pour l'instant une majorité de mathématiciens et nous en aurons encore un autre, Jean-Marc Schlenker aussi. Claude Viterbo est mathématicien, spécialiste, je crois, de géométrie symplectique. Et il me corrigera peut-être. Il est toujours professeur à l'université de Paris-Sud Orsay. Et vous comprendrez un peu plus tard dans la journée à quel point Orsay est un incubateur de talents. Il est actuellement directeur du département de mathématiques de l'École normale supérieure. Et
là, je te corrige, j'ai démissionné il y a 15 jours.
Ah bon, alors, il aura été jusqu'il y a 15 jours directeur du département de mathématiques et il y a en tout cas été suffisamment longtemps pour que sa marque se soit imprimée. Vous comprendrez aussi ce que veut dire diriger un département de l'École normale supérieure quand vous verrez des statistiques sur l'origine des mathématiciens et notamment des mathématiciens des mathématiciennes qui ont fait parler d'elles et d'eux. Et il est également, ou il a été professeur et directeur du département de l'École polytechnique. Voilà, je lui passe tout de suite la parole pour son exposé, le rôle du jugement esthétique en mathématiques. Je pense que Emmanuel Kant serait heureux d'entendre. Qu'est-ce qui fait la beauté d'un théorème ?
Alors, merci beaucoup, Pierre-Michel Menger. Je suis très heureux d'être ici pour plein de raisons, y compris personnelles. Alors, j'ai légèrement modifié le titre de la conférence en « Qu'est-ce qui fait la valeur d'un théorème ?» pour souligner que si on fait la sociologie du travail des mathématiciens, à mon avis, il faut savoir ce qui fait la valeur de leur production. Alors, j'aurais pu commencer par d'autres choses. Qu'est-ce qui fait la valeur d'une question en mathématiques ? Qu'est-ce qui fait la valeur d'une démonstration ? Après tout, le théorème, c'est un peu le produit fini de la production mathématique. Donc, il me semblait que c'était raisonnable de commencer par là. Alors, en fait, d'ailleurs, je ne sais pas si je suis ici. Je me sens ici un peu comme un cobaye qui serait invité à faire une conférence dans un congrès de biologie. Donc, je ne sais pas si je suis celui qui étudie ou si je suis l'objet d'études dans ce que je vais dire.
Mais... C'est parfait.
Alors évidemment, on pourrait faire cette évaluation de théorème en utilisant ce que les gens appellent maintenant les indicateurs de référence, qui sont très à la mode, le citation index, indice d'impact, le ranking, hash number, etc., sans absolument se préoccuper de quel est le véritable contenu de l'activité mathématique. À mon avis, c'est un peu comme si on voulait utiliser un logiciel pour noter la beauté d'un tableau. Alors vous allez peut-être être surpris, mais un tel logiciel existe. Il s'appelle Aquine, développé à Penn State, et... il donne résultat suivant. La Joconde, 8,9 sur 10. La jeune fille à la perle de Vermeer, 7,9 sur 10. La déposition de Giotto dans la chapelle de Padoue, 9,2 sur 10. La grande vague de Hokusai, 6,5 sur 10. Bien entendu, ce n'est pas la peine que je vous montre les œuvres en question. Toute la beauté de l'évaluation par les indicateurs, c'est que ce n'est pas la peine de voir de quoi on parle. Alors, si cette manière de parler d'œuvres d'art ne vous satisfait pas, et moi, elle ne me satisfait pas, en tout cas, il y a une deuxième raison de s'intéresser à des critères esthétiques en mathématiques, c'est que, contrairement à une loi physique, ce n'est pas tellement la justesse d'un énoncé. Évidemment, la justesse d'un énoncé en mathématiques est importante, hein, mais ce n'est pas le critère qui en fait la valeur. Donc, cet autre critère, je ne veux pas faire un... On pourrait passer... les philosophes ont passé des heures... siècle à discuter de la notion de beau, je vais appeler ça beauté ou critère esthétique. Et on ne va pas détailler plus pour le moment. Alors, qu'est-ce que disent les mathématiciens sur la beauté des mathématiques ? Voilà quelques citations. La première de Gauss, mathématicien de fin 18e siècle, début 19e, qui dit que les charmes enchanteurs de cette sublime science ne se décèlent dans toute leur beauté qu'à ceux qui ont le courage de l'approfondir. Poincaré parle de la science, y compris des mathématiques, dit que la science n'étudie pas la nature parce que cela est utile, il l'étudie parce qu'il y prend plaisir, et il y prend plaisir parce qu'elle est belle. Si la nature n'était pas belle, elle ne vaudrait pas la peine d'être connue. Je ne parle pas ici, bien sûr, de cette beauté qui frappe l'essence, de la beauté des qualités et des apparences qui n'a rien à faire avec la science. Je veux parler de cette beauté plus intime qui vient de l'ordre harmonieux des parties et qu'une intelligence pure peut saisir. Il y a aussi des phrases de Bachelard. Alors la première que je ne comprends pas très bien, je vous avoue, la science est l'esthétique de l'intelligence. La deuxième que je trouve très, très jolie, le jugement esthétique porté sur des beautés d'idées scientifiques est un élément important de convergence des travailleurs de la preuve. Cette idée de travailleurs de la preuve, j'avoue, me plaît beaucoup. Alors, passons à un autre texte où la beauté prend vraiment une place centrale. C'est un texte d'un mathématicien anglais qui s'appelle J.H. Hardy, qui était actif, je vais dire, dans la première moitié du XXe siècle, grand mathématicien anglais. Il a écrit un livre, un petit livre d'une cinquantaine de pages, qui s'appelle Mathematician's Apology. Livre n'est pas toujours très sympathique. Il y a une certaine arrogance sur l'inutilité revendiquée des mathématiques, qui, à mon avis, maintenant est un peu à côté de la plaque, je vais dire. Mais sur les critères esthétiques, en tout cas, il dit « La beauté est le premier critère. Il n'y a pas de place dans le monde pour des mathématiques laides. » Et il donne un indice de ce qu'il entend par cette beauté. Il dit dans les deux théorèmes qu'il a cités, c'est celui de l'existence d'une infinité de nombres premiers et de l'irrationalité de racine de 2. Il y a au plus haut niveau de surprise combiné avec de l'inévitabilité et l'économie. Alors, pour les amateurs de statistiques, les mots beauty, beautiful et aesthetic apparaissent 35 fois sur ces 50 pages, alors que les mots théorème, géométrie et nombre, par exemple, n'apparaissent que 32, 20 et 21 fois. Donc, vous voyez que le mot beauté est vraiment au centre de ce texte. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça s'appelle Mathematician's Apology, c'est une sorte de brochure publicitaire pour les mathématiques. Donc, évidemment, on parle de beauté. Vous savez que vous allez dans la ville la plus hideuse de France, hein, pensez à celle que vous voulez, vous allez trouver une brochure où on vous explique la beauté, à quel point la ville est belle. Vous allez trouver aussi le mot, les champs lexicaux de la beauté qui apparaissent plein de fois. Donc, qu'est-ce qui se passe quand les mathématiciens ou quand les habitants de la ville, j'ai envie de dire, discutent entre eux? Est-ce qu'ils pensent aussi que la beauté est importante? Et donc, j'ai pris un exemple qui est celui de la correspondance entre Alexandre Grothendieck et Jean-Pierre Serre, qui est professeur ici, tous les deux, mais plus que Medaille Fields, je dirais, très très grands mathématiciens du XXe siècle et du XXIe siècle, en partie en tout cas. Et leur correspondance s'étale à peu près de 1950 à 1955, jusqu'au milieu des années 80, disons. Alors, j'ai pris la correspondance en anglais, pas parce que cette correspondance était en anglais, mais simplement parce que j'avais le fichier PDF, et donc c'est plus facile de faire des recherches sur les mots, hein, sur ce fichier. Et vous voyez que les mots « very nice »,« pretty »,« beautiful »,« very pretty »,« very pretty »,« very pretty » encore, « very beautiful and aesthetically satisfying »,« beautiful »,« beautifully », et ainsi de suite, apparaissent une grande quantité de fois dans leur correspondance. Ce n'est pas toujours le cas, hein. Il y a d'autres correspondances où c'est quelque chose qui est moins prégnant, d'une certaine manière, mais dans la correspondance entre ces deux mathématiciens, en tout cas, la question de la beauté est vraiment quelque chose de présent, présent partout. Et puis, j'ai envie de dire, il n'y a pas de beauté sans laideur, et ce que je vais vous montrer, c'est une lettre qui est de Carl Ludwig Siegel, donc c'est à Mordell, deux très grands mathématiciens, Mordell spécialiste de théorie des nombres, Siegel spécialiste entre autres de théorie des nombres, mais de beaucoup d'autres choses aussi. Une lettre de mars 64 qui réagit à un compte-rendu de lecture fait par Mordell d'un livre de Serge Lang. Alors Serge Lang était dans la mouvance, j'ai envie de dire, de Bourbaki. Et visiblement, ça ne plaisait pas beaucoup ni à Siegel ni à Mordell. Vous allez voir cette lettre. Je ne vais pas la lire en entier, je vais juste vous souligner, les passages en gras sont les points importants. Lorsque j'ai vu pour la première fois ce livre, il y a à peu près un an, j'étais dégoûté par la manière dont mes propres contributions ont été défigurées. Bon, après, il parle du style. Il dit « Je vois un porc qui s'introduit dans un magnifique jardin et qui déracine toutes les fleurs et les arbres. Malheureusement, il y a de nombreux compagnons de route qui ont déjà déshonoré une grande partie de l'algèbre de la théorie des fonctions. » Et je rappelle que Siegel avait dû quitter l'Allemagne à cause du nazisme. Ces gens me rappellent du comportement impudent des nazis qui chantaient « Nous continuerons à marcher jusqu'à ce que tout tombe en poussière ». Et il termine « Je crains que les mathématiques ne périssent avant la fin du siècle, si cette mode d'abstraction dénuée de sens continue. J'espère que votre compte-rendu aidera, etc. Donc, j'avoue que chaque fois que je lis cette lettre, je suis pris par la violence de cette lettre. Vous voyez que cette lettre est essentiellement basée sur des questions esthétiques, et ça n'était vraiment pas un problème de citation. C'est pas que Siegel n'était pas, ou Mordell n'était pas assez cité dans le livre. Ils étaient très abondamment cités. C'était leur propre contribution était vraiment importante. Elle était, j'ai envie de dire, je ne sais pas si on peut dire repackagée en termes modernes, mais enfin, en tout cas, remise au goût bourbakiste, qui visiblement ne leur a pas plu. Mais ce n'est pas un déplaisir superficiel en disant, je ne sais pas, il y a des fautes d'orthographe ou des choses marginales. Vous voyez que le critère principal, c'est un critère de beauté. J'étais dégoûté, c'était défiguré. C'est un porc qui s'introduit dans un magnifique jardin et qui déracine tout. Donc c'est vraiment des critères esthétiques. Et vous voyez qu'à la fin, cette esthétique porte sur quoi ? Porte sur la survie des mathématiques. Donc on n'est pas en train de dire ces critères, oui, ce qu'il a fait, c'est pas très joli, mais voilà, il dit si ça continue comme ça, si cette esthétique-là va mener à la disparition des mathématiques. Donc c'est quelque chose d'extrêmement violent. On pourrait s'attendre à ce genre, je ne sais pas si les gens de la... Enfin, à part ceux qui connaissaient déjà cette lettre, mais je ne sais pas si on s'attend à une lettre d'une telle violence sur des questions mathématiques. On pourrait imaginer, et même peut-être pas de cette violence, mais sur des questions d'art, on pourrait imaginer que quelqu'un ait écrit ça sur Pollock, par exemple, ou un critique d'art ait écrit ça sur Pollock, sur des mathématiques. Même moi, je suis surpris, je dirais, par cette violence. Bon, et puis la place de l'esthétique est aussi évoquée dans d'autres endroits. C'est évoqué en particulier dans l'ouvrage de Bernard Zarka, L'univers des mathématiciens. Je ne sais pas s'il va en parler cet après-midi, de cet aspect esthétique. Alors, il nous apprend, il y a une distinction comme Pierre-Louis Lyon, c'est comme Catherine, je n'aime pas beaucoup de distinction entre mathématicien pur et mathématicien appliqué. Je pense que ça n'a plus beaucoup de sens. Mais après tout, les gens peuvent s'identifier à une communauté, simplement. Ils mettent des étiquettes. Et donc, Zarka nous fait remarque que les mathématiciens dits purs aiment plus la musique classique que les mathématiciens appliqués, utilisent plus le terme de beauté pour décrire les mathématiques que les mathématiciens appliqués. Alors, je ne sais pas tout à fait ce qu'il faut en conclure. Ce que j'ai envie de dire, c'est que peut-être qu'un mathématicien amateur de musique classique dira d'un théorème que c'est un beau théorème, et puis un amateur de jazz dira d'un théorème que ça swing. Après tout, c'est peut-être simplement d'utiliser des mots différents pour dire la même chose. Alors, j'aime pas beaucoup parler trop longtemps sur les mathématiques sans parler de mathématiques et de parler de théorème. Donc, on va commencer par parler de théorème. On va commencer par quelque chose de simple, le théorème de Pythagore. Donc, il vous dit, ça, hein, tout le monde connaît, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés. Donc, ça, c'est un théorème. Et puis, je vais vous écrire à côté quelque chose qui n'est pas un théorème, qui est le suivant. Si vous avez un même triangle rectangle, mais que AB est égal à 3 et que BC est égal à 4, alors l'hypoténuse est égale à 5. Alors, je ne dis pas que c'est un non-théorème, mais c'est un non-théorème pas parce qu'il serait faux. Hein, si 3 au carré plus 4 au carré, ça fait bien 5 au carré. Donc, c'est correct. Mais c'est un non-théorème pour une autre raison. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire du théorème de Pythagore ? Du théorème de Pythagore, par exemple, si vous allez à New York, vous pouvez calculer la distance entre deux carrefours quelconques, au moins ceux qui sont situés entre la 14e et la 110e rue. Donc, par exemple, si je veux calculer la distance entre 35e rue, 5e avenue, et 71e rue, 11e avenue, alors pour ceux qui connaissent New York, savent peut-être qu'à ce niveau-là, la 11e avenue s'appelle West End, mais enfin, ça n'a pas beaucoup d'importance.
Ah oui.
Et si vous savez en plus que la distance entre un bloc d'avenue, c'est équivalent à 3 blocs de rue, c'est 3 fois plus grand, vous allez trouver que la distance entre ces deux points, c'est racine de 71 moins 35 au carré, plus 3 fois 11 moins 5 au carré, ce qui fait racine de 1620, c'est-à-dire 20 blocs, et 20 blocs, ça fait à peu près 2 miles. Et maintenant, si vous regardez sur Google Maps, vous allez trouver 2,07 miles, ce qui... finalement, on est pas mal.
Bien joué.
Et vous pouvez faire ça pour deux points quelconques. Donc, vous voyez qu'en fait, les mathématiques, c'est une science de paresseux, si vous ne le saviez pas. C'est que vous avez un théorème, et le théorème vous permet de calculer sans aller mesurer sur une carte, sans aller chercher dans Google Maps. Vous donnez deux points, vous connaissez la distance entre ces deux points. en tout cas dans cette région de Manhattan. Donc il y a un principe d'économie qui joue un rôle important. Et donc ce que j'avais appelé un non-théorème, c'est simplement qu'il y a très peu de chances que vous tombiez sur deux points qui sont exactement à une avenue d'intervalle et quatre rues d'intervalle. Ça vous donne simplement un cas particulier qui n'a pas vraiment d'intérêt, parce qu'il y a quand même très peu de chances que vous tombiez dessus. Donc c'est ça la différence, je dirais, entre le théorème et le non-théorème. Alors je vais vous donner un deuxième exemple de théorème, qui s'appelle la formule de l'air, qui est un problème qui avait été posé en 1644 par un mathématicien italien, Pietro Mengoli, et résolu en 1735 par Euler, qui s'appelle le problème de Bâle, et qui a immédiatement rendu Euler célèbre. Donc, ce théorème dit la chose suivante. Si vous prenez la somme des inverses des carrés des nombres entiers, donc 1 plus 1 quart, plus 1 neuvième, plus 1 seizième, plus 1 vingt-cinquième, et ainsi de suite, le résultat, c'est pi au carré sur 6. Alors, tout d'abord, vous allez me faire remarquer, et si vous ne le faites pas, je vais le faire moi-même, que cet énoncé contredit le principe de généralité que je viens de vous dire pour l'exemple précédent. Il y a très peu de chances que dans un calcul, ça arrive de temps en temps, mais enfin, c'est quand même assez rare, vous deviez calculer la somme des inverses des carrés des nombres entiers. C'est quelque chose d'assez rare. D'ailleurs, on peut se demander, est-ce que c'est vraiment le calcul qui est important ? Par exemple, l'énoncé suivant est un non-théorème, donc toujours la même somme, hein, plus 1 quart, plus 1 neuvième, plus 1 seizième, mais là, je dis simplement, c'est égal à 1,64493406, etc. Hein, donc, je vous donne les premières décimales du résultat. Alors, vous allez me dire, oui, ça, c'est un non-théorème, parce que c'est facile de calculer. Vous n'avez qu'à prendre la somme des termes de gauche, vous en calculez suffisamment, et vous allez tomber sur les décimales du terme de droite. Alors, juste pour information, si vous faites la somme comme elle est écrite, pour avoir les 11 décimales à droite, il vous faut calculer à peu près 10 000 termes à gauche. Donc, vous voyez que ce n'est pas si facile que ça, en réalité. Ce n'est pas une question de facilité. Alors, vous allez me dire, est-ce que peut-être que cette formule sert pour calculer le nombre pi ? Donc, on a pi au carré sur 6. Après tout, on peut en extraire pi. Alors, la réponse est non. Il y a une autre formule qui s'appelle la formule de Ramanujan. Donc, Ramanujan est un mathématicien indien qui, en particulier, a été sa vie a été racontée dans un film récent qui s'appelle L'homme qui défiait l'infini. Et donc voilà une formule pour pi qui est assez compliquée. Je ne vais pas rentrer dans les détails, peu importe. Donc c'est aussi une somme infinie. Alors la différence, c'est que si vous voulez calculer 14 décimales de pi, il suffit de calculer trois termes de la somme de droite. Et en fait, ce genre de formule, avec des variantes, est une des formules qui sont utilisées. Il y a des gens qui s'amusent à calculer des millions de décimales de pi. C'est une des formules qui est utilisée pour calculer toutes ces décimales. Alors, Ramanujan avait des carnets dans lesquels il écrivait ses formules. En général, il ne connaissait pas les démonstrations. C'est pour ça qu'il est allé en Angleterre voir Hardy, le mathématicien dont on parlait tout à l'heure, avec qui il a réussi, dans certains cas, à démontrer certaines de ses formules. Certaines de ses formules sont toujours des problèmes ouverts. On ne sait pas très bien comment il les trouvait, mais il avait des petits carnets où il notait toutes ses formules. Et ces carnets ont été édités par un mathématicien qui s'appelle Watson, enfin par plusieurs mathématiciens, mais en particulier par un qui s'appelle Watson, et qui disait à propos de cette formule qu'il ressentait une excitation qui est indiscernable de l'excitation que je ressens lorsque j'entre à la Sacrestia Nuova de la Chapelle Médicis à Florence, et que je vois devant moi l'austère beauté des quatre statues qui représentent le jour, la nuit, l'aube et le crépuscule que Michel-Ange a sculpté sur la tombe de Julien et Laurent de Médicis. Donc voilà les statues. Donc je ne sais pas si pour vous, lorsque vous regardez ça et vous regardez ça, ça vous fait le même effet. J'avoue que ce n'est pas tout à fait mon cas non plus, mais visiblement c'est le cas de Watson, et je n'ai rien à... On ne peut rien dire si c'est son cas. Poincaré, visiblement, ne pense pas ça non plus, puisqu'il dit que la beauté des mathématiques, pour lui, n'est pas du tout la beauté visuelle. C'est pour lui quelque chose de très différent. Mais après tout, pourquoi pas ? Alors, revenons à cette formule de l'air. Qu'est-ce qui est beau dans cette formule ? En fait, c'est l'aspect dont parlait Hardy, c'est l'aspect inattendu. Vous avez un terme de gauche qui est une somme d'inverse de nombres entiers, quelque chose qui dépend de tous les entiers. Vous avez à droite quelque chose qui dépend du rapport entre la circonférence du cercle et son diamètre. Et on ne voit pas pourquoi il y aurait un rapport entre ces deux objets. Alors que lorsque j'écris que la somme des termes de gauche, c'est égal à 1,644, ben c'est 1,644, etc. C'est un nombre quelconque, a priori, avec des décimales. Ben on se doute bien que le terme de gauche va vous donner un nombre avec des décimales. Le fait que ce soit exactement pi 2 sur 6, qui est un nombre qui vient d'ailleurs, est quelque chose de remarquable. Et c'est ça qui fait la beauté, à mon avis, en tout cas, de cette formule. À l'opposé, par exemple, quelque chose qui serait un autre non-théorème, c'est d'écrire simplement que la somme des 1 sur 2 puissance n égale 1. Il n'y a rien de surprenant, sauf peut-être pour les Grecs de l'époque de Zénon d'Élée, qui étaient surpris par le fait qu'une somme infinie de termes puisse avoir une somme finie. Le paradoxe d'Achille et la tortue est essentiellement basé sur ce point-là, c'est qu'il y a une somme infinie de choses dont la somme est finie. Ça, c'était surprenant. Mais une fois qu'on a dépassé ce point-là, et vous voyez aussi que la beauté en mathématiques a quelque chose d'immédiatement culturel, parce que ça dépend de ce que vous savez, ce qui vous surprend et ce qui ne vous surprend pas, et suivant les personnes, ça sera différent. Voilà. Donc on a vu quelques ingrédients qui font la beauté d'un théorème. Il y a l'aspect économie de travail qu'on a vu, par exemple, dans le théorème de Pythagore, ou qu'on a vu éventuellement dans la formule de Ramanujan, l'élément de surprise qu'on voit ici. Et je voudrais dire faire le lien avec les mathématiques appliquées pour dire que je donne essentiellement des exemples qui viennent de la théorie des nombres simplement parce que j'ai besoin de moins de prérequis pour expliquer ce qui se passe, mais on pourrait dire la même chose sur la théorie des nombres. Sur des mathématiques appliquées, il y a un article célèbre du physicien Wigner qui s'appelle « La déraisonnable efficacité des mathématiques dans les sciences naturelles », qui dit exactement ce qu'annonce le titre. Et l'article commence par une anecdote suivante. Deux amis se sont perdus de vue depuis le lycée. Et puis il y en a un qui est devenu statisticien, spécialiste de l'évolution des populations. Il essaie d'expliquer son métier à l'autre. Alors il lui montre un de ses articles, lui explique les symboles pour les populations moyennes, la croissance, les équations satisfaites, etc. Et puis son camarade l'écoute un peu sceptique. Il ne sait pas si c'est du lard ou du cochon, est-ce que ce qu'on lui raconte est sérieux ou pas. Et puis à un moment, il lui dit « Et ce signe-là, qu'est-ce que c'est ?» Il me dit « Ça, c'est pi, dit le statisticien. » Il dit « Ah bon, mais pi, c'est quoi ?» Il dit « Pi, c'est le rapport entre le périmètre du cercle et son diamètre. » Il dit « Ah, bah écoute, t'as vraiment failli m'avoir, mais là, c'est trop. Je sais bien qu'entre l'évolution d'une population et le périmètre d'un cercle, il ne peut y avoir vraiment aucun rapport. » Donc, là aussi, vous voyez qu'il y a un élément de surprise. Évidemment, c'est un aspect très, de nouveau, très culturel. Si vous dites ça à un mathématicien, il ne sera pas surpris. Dernier théorème que je voudrais présenter, l'ordre n'est pas le bon, mais ce n'est pas grave, c'est le théorème des nombres premiers. Donc les nombres premiers, c'est ceux qui ont exactement deux diviseurs, 1 et eux-mêmes, donc 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, etc. Et c'est une suite qui n'a essentiellement aucune prédictabilité, c'est-à-dire que vous n'avez pas de formule algébrique qui vous fournisse des nombres premiers. Vous ne pouvez pas dire, si je prends le carré d'un nombre, j'ajoute quelque chose, je le mets à la puissance, etc. C'est quelque chose que les gens ont cherché, ces formules algébriques, et on ignore énormément. On sait très peu sur cette suite de nombres premiers. On ne sait toujours pas, par exemple, si tout nombre pair s'écrit comme somme de deux nombres premiers, ce qu'on appelle l'hypothèse de Goldbach. On ne sait toujours pas s'il y a une infinité de nombres premiers, ce qu'on appelle jumeaux, c'est-à-dire dont la différence est 2, comme 11, 13, 17, 19, 29, 31, 881, 883. On connaît des nombres premiers jumeaux avec 200 000 chiffres, mais on ne sait pas s'il y en a une infinité. Alors, de ce point de vue, je raconte le théorème des nombres premiers, mais en fait, je devrais raconter d'autres théorèmes plus anciens, par exemple des travaux de Dirichlet de 1836 ou de Tchebychev dans les années 50, mais là, c'est un théorème qui est plus simple. Et ce théorème dit que le nombre de nombres premiers compris entre 0 et n, grand N, est donné par à peu près n divisé par log de n. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, qu'entre 1 et 50 000, alors, il y a exactement, on peut calculer exactement, il y a 5133 nombres premiers, et 50 000 divisé par log de 50 000, c'est 4621, donc vous avez une erreur d'à peu près 10%. Si vous regardez 1 milliard, entre 1 et 1 milliard, vous avez à peu près 50 millions et des poussières de nombres premiers, et 1 milliard divisé par log de 1 milliard, c'est 48 millions et des poussières. Donc, dans le premier cas, vous aviez une erreur de 10%. Là, vous avez une erreur qui est à peu près 4 ou 5%. Et au fur et à mesure que le nombre augmente, le pourcentage d'erreur va diminuer et tend vers zéro. Donc, c'est ça ce que signifie cet énoncé. Alors, quelle est la beauté de cet énoncé par rapport aux questions que j'ai posées? C'est qu'en fait, on répond à côté de la question. On a envie d'avoir une formule algébrique qui vous décrive les nombres premiers ou qui vous dise quel est le millionième nombre premier. Là, on n'y répond pas. On a répondu totalement à côté. Mais quand même, Donc ça ne vous permettra pas de dire est-ce qu'il y a une infinité de nombres premiers jumeaux, par exemple. Ça ne va pas vous aider. Mais on met quand même, j'ai envie de dire, de l'ordre dans le désordre. C'est-à-dire que ces nombres premiers qui semblaient comme ça, sans aucune structure, ben là, on trouve une certaine structure. Donc, d'une certaine manière, on a franchi un obstacle. Alors, j'ose pas appeler ça obstacle épistémologique, parce que c'est quelque chose qui est dans Bachelard avec un sens un tout petit peu différent. Obstacle cognitif, c'est pris par les pédagogues, ou encore dans un sens différent. Je vais quand même utiliser le mot obstacle épistémologique. Donc, on a une sorte d'impossibilité à connaître les nombres premiers, en tout cas de la manière à laquelle on pense a priori. Alors, quand on dit on pense, c'est moi ou c'est vous. Gauss, en 1792, avait déjà conjecturer cette formule, ou Legendre un peu plus tard, mais bon, c'est égo, c'est Legendre. En tout cas, le théorème ne vous permet pas de calculer le milliardième nombre premier, mais dans ce théorème, on retrouve d'abord ce principe d'économie, parce que le terme de gauche est très difficile à calculer, combien il y a de nombres premiers entre 1 et 1 milliard. En gros, il n'y a pas de méthode beaucoup plus efficace que de regarder la liste des nombres entre 1 et 1 milliard et de dire celui-là est premier, celui-là n'est pas premier. De regarder les diviseurs, ce qu'on appelle la méthode du crible. C'est en gros une méthode essentiellement d'énumération. D'accord ? Donc c'est quelque chose qui demande beaucoup de travail. Par contre, calculer 50 000 sur log de 50 000, c'est quelque chose que vous faites en une fraction de seconde sur une calculette. C'est extrêmement simple. Donc ça, c'est un premier... Premier point, il y a aussi quand même un effet de surprise parce qu'on ne voit pas pourquoi la liste des nombres premiers aurait un rapport avec la fonction logarithme. La fonction logarithme est définie de manière totalement différente, sans aucune référence aux nombres premiers. Et puis il y a ce dernier point qui est cet aspect de contournement d'obstacles. On essaie de poser une question d'une certaine manière et on vous dit non, pas du tout, c'est pas comme ça. Je vais vous donner une information, mais qui n'est pas du tout celle que vous attendiez. Alors, j'ai fait un petit tableau ici pour résumer, et je vais passer à la partie suivante de l'exposé, que vous allez peut-être trouver plus surprenante. Donc vous avez vu que Watson essayait de comparer un théorème à une sculpture, Poincaré à celle de l'harmonie de la nature. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est est-ce qu'un théorème est un mot d'esprit ?
Ah, très bien.
Vous allez me dire, c'est un peu surprenant, parce qu'un théorème, c'est une sorte de vérité universelle, éternelle, gravée dans le marbre. Un mot d'esprit, c'est quelque chose qui est, a priori, éphémère, un peu futile. Mais on peut quand même s'interroger sur les aspects éventuellement communs des mécanismes qui sont en jeu. Alors, le mot d'esprit a beaucoup été étudié, en particulier par Freud, dans un livre qui s'appelle « Le mot d'esprit et sa relation avec l'inconscient » de 1905, qui aurait pu rester peut-être un peu marginal dans la production de Freud, mais qui a été largement repris, en particulier dans le séminaire de Lacan de 57-58, qui lui a donné une place centrale. Alors, on peut s'interroger, parce qu'après tout, dans l'œuvre de Lacan, le mot d'esprit et les métaphores mathématiques ont toutes les deux une place centrale. Donc peut-être qu'après tout, ce n'est pas totalement absurde de rapprocher les deux. Et une autre remarque, c'est que le canular, alors Freud nous explique qu'il ne faut surtout pas confondre le canular et le mot d'esprit, mais peu importe, est un aspect important de la vie du groupe Bourbaki. Donc vous voyez qu'il y a quand même peut-être des intersections entre mot d'esprit et théorème. Et puis Freud, comme Lacan, explique qu'un mot d'esprit est quelque chose qui nécessite la présence d'un tiers, c'est-à-dire que vous avez l'auteur du mot d'esprit, vous avez l'objet du mot d'esprit qui peut être souvent une personne, et puis vous avez ce qu'ils appellent l'autre, qui est le tiers auquel, d'une certaine manière, le mot d'esprit s'adresse qu'on va faire rire. Alors, contrairement à ce qu'on pense, un théorème s'adresse aussi à un tiers. Donc il y a l'auteur du théorème, d'une certaine manière, il y a l'objet du théorème, qui en général est un objet mathématique, qui n'est pas une personne, et puis il y a celui auquel on s'adresse, celui qui s'adresse, c'est celui qui cherche à mesurer l'hypoténuse du triangle, ou qui cherche à mesurer les distances à Manhattan, celui qui cherche à calculer les sommes des 1 sur n2, ou peut-être simplement celui qu'on a envie de surprendre en lui disant « tiens, la somme des 1 sur n2, c'est pi 2 sur 6 », celui qui cherche à comprendre la nature des nombres au premier, et ainsi de suite. Donc on s'adresse vraiment à quelqu'un. Et je voudrais simplement souligner que les mathématiciens qui, dans le folklore, sont considérés comme un peu des héros solitaires, on peut penser à Galois ou aussi à Ramanujan, sont en fait des gens qui ont cherché désespérément quelqu'un à qui s'adresser. Galois avait désespérément essayé de s'adresser d'abord à Cauchy, qui avait perdu ses manuscrits, et ensuite à Poisson, qui s'en est occupé trop tard. Ramanujan avait, s'était adressé à un certain nombre de mathématiciens anglais en lui renvoyant ses résultats, et ils n'avaient pas été intéressés, sauf Hardy, qui avait été le premier à s'intéresser à ses travaux. Alors, c'est pareil, je ne vais pas vous parler du mot d'esprit sans vous en raconter quand même, ça serait dommage. Donc, le classique qui est raconté par Freud et surtout repris par Lacan, c'est celui d'un... C'est dû à Heine, à l'auteur allemand Heine, à propos d'un placeur de billets de loterie qui est un peu histrion et qui raconte qu'il était assis à côté de Rothschild et dit « Rothschild m'a traité d'égal à égal de manière très familionnaire ». Alors, évidemment, le mot d'esprit... C'est dans ce mot inexistant « familionnaire » qui condense « familier » et « millionnaire ». Et en fait, ce mot, vous voyez que ça veut dire énormément de choses. Ça veut dire « il m'a traité avec toute la familiarité dont est capable un millionnaire » et évidemment avec toute la condescendance pour un pauvre R comme moi, à laquelle on peut s'attendre. Donc vous voyez que vous avez à la fois un phénomène ici d'économie, c'est-à-dire qu'avec un seul mot, on dit énormément de choses. Bon, Freud l'explique un peu, même parle de phénomène de condensation, qui est quelque chose qu'on pourrait retrouver dans des théorèmes, mais pour lequel je n'ai pas vraiment le temps d'en parler. Et Freud est aussi friand des histoires de marieurs juifs. Alors, il y a une de ces histoires où un prétendant attend dans l'antichambre de son futur beau-père, et puis il admire une magnifique argenterie qui est dans les vitrines. Et à un moment, il a un petit doute, il dit au marieur, « Mais vous êtes sûr que cette argenterie n'a pas été empruntée à des voisins dans le but de m'impressionner ?» Et le marieur lui répond, « Oh ben pour ça, vous pouvez être tranquille, personne ne s'aventurerait à prêter son argenterie à ces gens-là. » Et donc là, le marieur, sur un ton qui se veut rassurant, évidemment, dévoile au jeune homme que la famille en question est d'une honnêteté plus que douteuse. Donc il y a un effet à la fois de dévoiler quelque chose qui est caché, parce que c'est clair que le marieur n'avait pas vanté la malhonnêteté de la famille avant. Donc il y a cet élément de surprise. Il y a aussi un obstacle qui est de cette manière surmonté, parce que ce n'est pas quelque chose que le marieur pouvait dire directement. Hein, ce n'était vraiment pas son métier d'aller donner les défauts de la famille. Et évidemment, dans le mot d'esprit, les obstacles sont des obstacles qui sont de type social ou psychologique, alors que dans les théorèmes, c'est des obstacles, disons, épistémologiques. Mais ce qu'on admire dans les deux cas, à mon avis, c'est cette faculté, cette capacité à surmonter l'obstacle d'une façon assez brillante. Et un dernier exemple d'obstacle surmonté, c'est celui d'un prince qui, voyageant dans ses états, remarque un paysan qui lui ressemble de manière extrêmement troublante. Donc il s'approche du paysan, il lui dit « Je suppose que votre mère a travaillé au palais ?» Et le paysan de répondre « Non, Altesse, pas ma mère, mais mon père, oui. » Alors, bien entendu, quelle est l'histoire qui est derrière ? C'est que le paysan a envie de prendre une bûche de bois et d'assommer le prince qui met en doute la vertu maternelle, mais d'une part, c'est socialement pas acceptable, et d'autre part, il risque d'être rossé par les valets du prince. Donc cette espèce d'obstacle à la fois social et physique est contournée par ce mot d'esprit. Et il y a un autre aspect, alors que je n'ai pas eu le temps d'illustrer dans les théorèmes, mais c'est un mélange de sens et de non-sens, l'un sous l'apparence de l'autre. Alors c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que le mot d'esprit, en général, sous l'apparence du bon sens, présente un non-sens, et le théorème a plutôt tendance à faire l'inverse. Par exemple, dans l'histoire de l'argenterie, quand le marieur dit « vous n'avez pas à vous inquiéter », c'est exactement le moment, l'argument a l'air parfaitement, parfaitement rationnel, c'est un discours qui semble parfaitement sensé, oh, ben, « vous n'avez pas à vous inquiéter, hein, vous pensiez qu'on essayait de vous mettre la poudre aux yeux », mais ça n'est certainement pas le cas. Mais évidemment, c'est exactement à ce moment-là qu'il faut vraiment s'inquiéter, parce que ce qu'il est en train de présenter, c'est la malhonnêteté de la famille qui est bien pire que le fait qu'on essaie de lui mettre un peu de poudre aux yeux. Et donc cette apparence de sens et de non-sens, par exemple, on la retrouve dans l'histoire de Wigner sur la présence du nombre pi dans l'article statistique. On a l'impression, le camarade de lycée a l'impression que c'est un total non-sens de mélanger pi et de mélanger l'évolution de la population, mais en fait, c'est tout à fait l'inverse. Voilà, je pense qu'il est l'heure de s'arrêter à peu près. Donc j'espère que je vous ai convaincu que l'esthétique a un rôle important dans l'appréciation d'un théorème et que ça n'est surtout pas quelque chose de réductible à des indicateurs numériques. Il faut vraiment regarder ce que sont les théorèmes et ce qu'est leur signification. Ce n'est pas non plus quelque chose d'accessoire, comme on l'a vu dans la lettre de Siegel à Mordell. On pourrait imaginer que c'est comme un arboriculteur qui... vous dire, regarde, mes cerisiers sont absolument magnifiques au mois de février, mais son travail, c'est quand même de produire des cerises et de les vendre, et la beauté des cerisiers, c'est quelque chose d'annexe. On voit dans la lettre en particulier de Siegel à Mordell que c'est vraiment quelque chose qui est fondamental. Il y a un autre exemple, ici j'avais fait un petit... Alors j'espère qu'il n'y a pas des gens qui vont inventer des indicateurs numériques qui vont compter le nombre de flèches qui partent d'un théorème. Tout Mais cela dit, le plus beau théorème du côté gauche, j'ai envie de dire, c'est le théorème de nombre premier, qui est celui qui a les trois flèches. Et du côté droit, enfin en tout cas, personnellement, je trouve que l'histoire la plus amusante, c'est celle du marieur et de l'argenterie, qui est aussi celle qui a les trois flèches. Mais enfin bon, ça c'est secondaire. Donc le fait que l'esthétique joue un rôle central dans l'activité mathématique, c'est quelque chose qu'on peut voir aussi dans un livre d'Erwin Panofsky, qui est un historien d'art, qui s'appelle Galilée, critique des arts. C'est un petit livre qui parle d'une lettre qu'avait adressée Galilée à un de ses amis sur la question de savoir si la sculpture ou la peinture était plus importante, lequel des arts était le plus important. En fait, derrière, Panofsky nous explique que Galilée était hostile au maniérisme, qui est un type de peinture de son époque, qu'on trouve dans Véroneste, Tintoret, Gréco, et favorable au classicisme de Raphaël et de Michel-Ange. Et Panofsky, ensuite repris par Coiré, dit que ça explique le fait que les orbites elliptiques des planètes n'aient jamais été reprises par Galilée. Alors, la démonstration est un peu compliquée. Je vous avoue, pour être tout à fait honnête, que je ne suis pas 100% convaincu par son argumentation, mais je trouve que c'est intéressant. Donc, l'ellipticité des orbites qui est due à Kepler était connue de Galilée, à l'époque, mais Galilée n'a jamais repris cette ellipticité. Il considère toujours que les trajectoires des planètes sont des cercles. Et donc Panofsky et Coiré disent que, en fait, c'est lié à ses goûts, au goût artistique de Galilée. Plus près de nous, il y a différentes esthétiques, évidemment. Il y a eu une esthétique, on pourrait dire, de manière très schématique, par exemple, de l'école russe, qui était différente de l'esthétique bourbakiste. Et d'ailleurs, c'est des domaines différents des mathématiques qui ont été développés, enfin, ou le plus développés, par les uns ou par les autres. Et un autre phénomène qu'on voit, par exemple, assez typiquement en peinture, c'est qu'on peut revisiter la même chose avec des esthétiques différentes. Donc, par exemple, la Vénus de Giorgione et la Vénus de Titien. Ou alors, vous voyez ici, vous avez trois tableaux ou trois œuvres d'art qui sont la même chose, revisitées par des artistes et des esthétiques différentes. Et on peut voir la même chose en mathématiques. Par exemple, dans l'école russe, il y a quelque chose qui s'appelle la théorie asymptotique de Maslow, qui est une théorie sur les équations dérivées partielles, qui a été reprise et retraduite, entre guillemets, en ce qui s'appelle la théorie des opérateurs intégraux par Ormander, dans une esthétique que j'ai envie de qualifier de plus bourbakiste. C'est un petit peu compliqué, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de hiérarchie dans ce jugement, pas plus qu'il y a de hiérarchie dans les... Enfin, il y a quand même des œuvres sur les trois que je préfère, mais voilà. Et donc cette esthétique fait partie, à mon avis, de la vision du monde des mathématiciens, qui est un sujet qui est évoqué dans le livre « Le travail créateur » de Pierre-Michel Menger sur comment analyser la grandeur artistique. Et enfin, il y a plusieurs manières de comprendre et d'étudier cette esthétique. Alors, je ne sais pas si j'ai réussi à vous convaincre que la comparaison avec le mot d'esprit étudié avait un sens, qu'il y avait certains mécanismes en commun, mais en tout cas, il y a bien d'autres liens avec d'autres types d'esthétiques qui pourront être faits. Puis j'espère surtout vous avoir convaincu que ces questions à peine effleurées méritent d'être approfondies. Merci de votre attention.